Bienvenue à tous dans le mag de l'été.
Il n'est pas vrai que les expériences soient toutes mortes et que nous n'ayons plus rien à vivre. L'événement le plus décisif aujourd'hui, c'est la possibilité dans une vie de l'expérience poétique. Comment accéder à la poésie? Aucune autre question n'a d'importance. Si quelque chose comme une expérience poétique vous arrive, les autres expériences viendront d'elles-mêmes, elles en procèdent.
Bonjour Clément Cogitor.
Bonjour.
Quel est le texte que vous venez de nous lire?
C'est un extrait du Sens du calme de Yannick Enel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Mag de l'été, le magazine culturel de vos débuts de soirée sur France Inter. De nombreux arts seront conviés à notre programme aujourd'hui. Nous parlerons cinéma avec l'actrice Emma Thompson à l'affiche de Late Night de Nisha Ganatra, une comédie vivifiante en salle depuis aujourd'hui. Et en direct avec nous, c'est un jeune artiste hors du commun que nous avons la joie de recevoir. Clément Cogitor est plasticien, photographe, cinéaste, vidéaste. Il vient aujourd'hui même d'entrer en répétition de l'opéra qu'il mettra en scène à partir du 26 septembre prochain à la Bastille, Les Indes Galantes de Rameau. Alors c'est une œuvre polymorphe qu'il construit depuis plus de 10 ans, et si Clément Cogitor croque dans les arts et les décloisonne avec une aisance déconcertante, le mot touche à tout ne lui convient nullement, car c'est l'idée, le sujet qui détermine le médium, et si la forme ne manque pas de fasciner, c'est le fond qui prévaut toujours. Itinéraire d'un artiste surdoué, c'est ainsi que pourrait s'appeler aujourd'hui notre Mag de l'été.
France Inter. Le Mag de l'été. Anna Sigalevitch.
Clément Cogitor, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'entrer dans l'émission par ce texte de Yannick Enel?
Parce que je trouve que c'est très beau ce qu'il raconte, et puis, comme artiste, ça me donne confiance un peu. Enfin, ça aide à faire confiance à ce qui arrive quand on travaille. Et David Lynch, il raconte quelque chose un peu pareil dans la manière dont il fait ses films. Il dit qu'on tombe amoureux d'une idée et puis on sait pas trop où elle va nous amener. Et puis petit à petit, on la suit, elle nous en amène sur d'autres. Mais au début, c'est toujours une sorte une expérience, une intuition. Et c'est en la suivant que les choses se construisent et se révèlent. Voilà. C'est une manière de... C'est à la fois une sorte de lâcher prise et de confiance qui, pour quelqu'un d'anxieux comme moi, est assez bienvenue, quoi.
Accéder à la poésie, qu'est-ce que ça veut dire, accéder à la poésie? Est-ce que vous êtes en quête de poésie avant de commencer à œuvrer, pendant que vous œuvrez? Est-ce que c'est une question qui vous taraude?
Non, à vrai dire, j'en ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce que c'est que la poésie, ou l'expérience poétique. Il faudra demander à Yannick Enel. Mais ce que j'aime, c'est l'idée que quelque chose arrive et puis les choses viennent d'elles-mêmes. Voilà, j'aime beaucoup cette idée-là et je crois à ça.
Et à la simplicité du geste aussi, il y a quelque chose comme ça de direct.
Oui, de se dire on commence petit par une petite intuition, quelque chose de simple et que c'est en chemin que les choses vont se complexifier, prendre de l'ampleur, se structurer, que petit à petit une œuvre, un film, image, mise en scène va se mettre en place.
Va se construire et émerger.
We all know somebody in our circles that embodies selfishness to its fullest. She has no love or no shame. She is cutthroat and envious from toe up. But she will never admit it though. She's by your side every single day, smiling at you, but wishing, praying for your downfall. But guess what, mid-aim? You got it all wrong, 'cause I figured you out from the beginning. Whatever she gets, it's never enough. Whatever she takes, whatever she wants. She wants your man, she craves your job, she dreams your life, and everything that goes with it. Thank you.
Let Beach Know par Kiddy Smile. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie de Clément Cogitor. Alors si nous avons choisi ce morceau, c'est parce que Kiddy Smile est un des représentants du voguing. Clément Cogitor, cette danse urbaine née aux États-Unis dans les années 70, hein, dans des clubs fréquentés par la communauté LGBT, afro-américaine notamment. Et il y aura dans la mise en scène, dans votre mise en scène, des Indes galantes, à la fois du voguing, donc cette danse. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il veut physiquement, le voguing un petit peu, ou vous aurez de grands yeux, ma question est trop
petite. Il y a des gens qui seront bien plus compétents que moi pour vous expliquer ce qu'est le voguing. Mais disons que en ce moment, avec la chorégraphe Bintou Dembélé qui m'accompagne sur la production des Indes Galantes, et qui elle pourrait en parler aussi mieux que moi, on a invité des danseurs de différents langages chorégraphiques de danse qui sont issus des danses urbaines, dont
le voguing, le crump,
le joking, le popping, le break. Le hip-hop, c'est une grande famille qui les rassemble un peu tous. Et en fait, ces danses sont issues, disons, du hip-hop, et qui ont chacune leur histoire, leur identité, qui sont plus ou moins jeunes, qui sont des langages très différents.
Mais quand même beaucoup des danses de révolte, de résistance, d'affirmation.
Beaucoup, oui. Ouais. Mais il y a aussi des choses extrêmement, extrêmement douces, extrêmement. C'est-à-dire qu'on a aussi. Je suis absolument pas un spécialiste de ces danses-là, donc je pense que je vais pas
trouver les bons mots,
mais je veux dire. Il y a des fois une image qu'on a qui peut être un stéréotype de ces danses et qui souvent procède du hip-hop ou du break, qui sont des danses assez spectaculaires. Mais dedans, il y a des choses parfois très minimales, très douces, qu'on s'attend pas forcément à voir là, et qui créent des contrepoints avec des choses qui sont beaucoup plus reconnaissables et qui sont parfois extrêmement surprenantes. Et c'est ce spectre-là qu'on essaye avec Bintou d'explorer
le
plus largement possible dans ce que ça a de plus reconnaissable comme danse. Et des fois, en le stylisant ou en détournant un petit peu ces langages vers le langage chorégraphique de Bintou et vers moi les intentions, le projet de mise en scène.
Alors pourquoi ces danses urbaines dans l'opéra du 18e, l'opéra ballet de Rameau, Clément Cogitor?
Alors, En fait, j'avais fait une vidéo sur un extrait des Indes Galantes, sur un air des plus célèbres.
Les Sauvages, de la quatrième entrée.
Qui s'appelle la danse du calumet de la paix. Et en fait, j'avais juste l'intuition, la sensation que cette danse-là, cette musique-là pouvait accueillir d'autres corps, d'autres énergies, d'autres langages chorégraphiques que ceux qui étaient habituellement convoqués sur la scène pour cette musique-là.
Alors, il faut préciser un tout petit peu, hein, parce que donc en effet, tout est né de ça, de Philippe Martin, qui est producteur de cinéma des films Pédéas et qui est en charge de la troisième scène, la plateforme numérique de l'Opéra de Paris, avait vu votre premier film, Ni le ciel ni la terre, et puis donc il vous a confié la réalisation d'un petit film pour la troisième scène.
Exactement.
Et c'est à ce moment-là que vous, il vous a donné complètement carte blanche. Pourquoi est-ce que vous avez déjà choisi Les Indes Galantes?
Parce que c'est une musique que j'aime énormément.
Oui.
C'est une musique dont je ne pourrais pas me passer. Comme des fois, on a certains livres. Enfin, il y a beaucoup comme spectateur, lecteur, il y a des choses qui font partie de nous au moment même où on les écoute j'aime beaucoup cette sensation quand j'entends quelque chose ou quand je lis un texte. Alors ça arrive très rarement, mais de se dire ah, ça m'avait manqué, en fait, comme si on se disait ça manquait à ma vie, en fait, cette pièce là cette voix là cette ce texte là et cette air des Indes Galantes et d'autres airs des Indes Galantes m'ont un peu fait cet effet là et je sentais qu'il fallait que j'avais envie de faire travailler autour de
quelque chose. Alors avant d'en parler, on va l'écouter. Les Indes Galantes, donc la quatrième partie, hein, la partie des Sauvages, c'est Emmanuel Haïm qu'on écoutait, qui dirige son ensemble Concert d'Astrée avec notamment Nathalie Dessay et Stéphane Degou. Donc on a entendu à la fin un petit bout de la danse du calumet de la paix et Forêt paisible, la scène 6 de la quatrième entrée. Alors, il faut qu'on décrive un petit peu ce que vous avez fait d'assez fascinant avec ce court-métrage Clément Cogitor. Donc, on est sur le plateau de l'Opéra Bastille.
C'est ça.
Voilà. Là, vous avez donc convié une vingtaine de danseurs, c'est ça ?
Qui sont entourés par une cinquantaine de personnes dans ce qu'on appelle un battle, qui est la manière dont se danse le crump, qui est une danse qui est issue du hip-hop, que moi j'appelle l'enfant furieux du hip-hop. Et donc les danseurs sont au milieu de ce cercle et se défient les uns les autres, comme si c'était des affrontements par le geste chorégraphique, sauf que c'est un affrontement symbolique par l'énergie du geste.
Oui, parce qu'il n'y a jamais de coup porté, en fait.
Et donc, il y a des réponses, et puis il y a des choses qui étaient totalement improvisées, et puis d'autres qui étaient chorégraphiées. Et voilà, on a tourné ça en début 2017.
En quelques heures,
sur la scène de l'Opéra Bastille.
C'est une vidéo qu'on peut voir, qui est accessible en ligne gratuitement sur le site de la Troisième Scène, qui est très forte, qui est très puissante, qui a fait grand bruit d'ailleurs. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il y a eu tant de débats et tant d'enthousiasme aussi autour de cette vidéo ?
Alors, c'est assez étrange parce que quand on fait les choses, on se pose toujours la question de la réception, est-ce que ça va intéresser d'autres personnes que soi-même, en fait, simplement, quand on fait les choses, et qui est-ce que ça peut bien intéresser, et en fait, j'arrive jamais vraiment à savoir, c'est-à-dire, je suis en montage, j'ai quelque chose dans les mains sur lequel je travaille, et puis au bout d'un moment, ça part dans le vaste monde. Et encore plus là, puisque du coup, la première destination de ces vidéos de Troisième Scène, c'est d'être sur Internet. Donc c'est du coup inévitablement accessible dans le monde entier. Et donc, j'étais assez surpris de voir la manière dont la vidéo se diffusait. Mais dans des milieux aussi très très différents, que ce soit autant le milieu de l'art contemporain que un très grand public qui arrive par des liens Facebook à ça, comme le public de ces danses-là, et évidemment le public de l'opéra, que ça se diffusait un petit peu partout.
Ça brasse en fait une population extrêmement variée et diverse.
Et je pense que ce qui fait le... Comment dire, ce qui a fait l'attraction. Moi, je sentais que quand on travaillait, que j'avais le fait que j'avais envie tout le temps de le revoir, il y a quelque chose d'addictif comme ça, qui tient à la présence cathartique des danseurs, de leurs gestes, leur présence. Enfin, on a l'impression qu'ils sont tous embrasés, quoi. Et à la puissance incantatoire de la musique de Rameau. Voilà, et que c'est cette rencontre-là, que ça tient pas à moi, mais à eux. Voilà.
Mais vous, comment c'est né ? Pourquoi vous avez eu envie de convoquer le crump ?
C'est une intuition, en fait. On se dit que ça, un peu comme quand on a deux bons amis et on se dit qu'ils ont des choses à se dire, ils pourraient bien s'entendre. Alors on organise un dîner, puis on les rassemble autour d'une table et puis on assiste à ça. Voilà. Et là, c'était avec une caméra. Alors je dis ça comme ça. C'est pas aussi simple que ça parce qu'évidemment, on a parlé, il y a eu des parties chorégraphiées, donc on a aussi un peu répété. Mais au final, tant qu'on n'est pas là à ce moment-là où on tourne, on se dit que ça devrait marcher, mais c'est jamais une science exacte. Voilà, mais au bout d'un moment, la chose m'échappe. Et ça a à voir entre ces corps et cette musique à ce moment-là. Et moi, j'en suis le premier spectateur et j'ai une caméra allumée.
Et là, ça a pris. Alors, c'est donc suite à cette vidéo qu'on vous a confié la mise en scène de Des Indes Galantes. Donc là, le grand opéra, qui est un prologue et puis ensuite en quatre parties, quatre entrées, qui se passe dans plusieurs endroits, au Pérou, en Amérique, etc. Que raconte pour vous, Clément Cogitor, Les Indes Galantes ? Quel est le sujet ?
Alors, le sujet du livret, il est il est très
pour
particulier.
Vous, hein.
Déjà, je vais peut-être juste raconter de quoi ça parle vraiment dans les faits. On est au début des Lumières et l'homme occidental, enfin l'homme européen, commence à s'intéresser vraiment aux autres cultures
exotiques,
et donc commence à, enfin, c'est à la fois l'orientalisme et donc commence à se raconter des histoires avec ça. Donc si je résume un petit peu, ou si je schématise rapidement, c'est un peu Pocahontas, quoi. Voilà,
le goût de l'ailleurs.
La princesse indienne, les colons ou officiers ou guerriers européens, une histoire d'amour, une intrigue, et puis un chef indien qui est pas d'accord, c'est la fille du chef indien. Voilà, c'est un petit peu ça. Et pour moi, c'est une histoire de malentendu, Les Indes Galantes. Mais c'est une histoire de malentendu d'abord, amoureux et politique, qui sont parfois conscients dans l'œuvre. C'est-à-dire que il y a des quiproquos théâtraux on pense qu'on parle, enfin, qu'on parle à telle personne, en fait, on parle à telle autre. Et puis, des fois, il y a des malentendus qui sont inconscients, où les personnages ont l'impression de parler des mêmes choses, mais en fait, ils utilisent soit pas les mêmes mots, ou soit ils ne parlent pas, en fait, des mêmes choses. Par exemple, le livret confond tout le temps, dans la dernière partie, le mot paix et le mot victoire. Et pour confondre le mot paix et le mot victoire, faut être le vainqueur, voilà. Donc, quand on confond ces deux mots, en général, c'est qu'on parle de paix impériale. Voilà. Et donc, ça, disons, ces deux degrés-là m'intéressent. Ce premier niveau de théâtre, de malentendu, de ce jeu de circulation de tension, de désir et de pouvoir à l'intérieur de l'œuvre entre ces personnages-là qui interagissent. Et puis un niveau plus souterrain de nœuds qui sont en train de se former à un moment donné de l'histoire entre des populations occidentales et des populations non occidentales.
La notion de l'étranger quand même.
Voilà.
C'est aussi un des thèmes essentiels.
Ça parle beaucoup de l'autre et comment l'interaction de nos interactions, le regard qu'on porte sur l'autre, et qui est dans les Indes galantes, il y a beaucoup la question du stéréotype, voilà. Et pas uniquement de l'Inca, du Turc, mais aussi du stéréotype, des stéréotypes européens entre le français, l'espagnol, et voilà, il y a tout un jeu autour de ça. Et moi, j'ai envie de jouer avec ces stéréotypes-là, et donc c'est d'un point de vue du livret, c'est ça qui m'intéresse d'interroger, ces malentendus, ces jeux de stéréotypes. Et ensuite, concrètement, moi je tombe amoureux des Indes galantes d'abord par la puissance et la beauté de la musique
de la musique de Rameau. On lui reprochait d'ailleurs qu'au moment de sa création, on dit que c'était trop riche, trop complexe,
oui.
trop beau, quoi.
Complètement. Même les musiciens refusaient de jouer certaines parties qui étaient trop complexes. Et faut vraiment imaginer que pour les oreilles de l'époque, il y a certains airs qui, c'est comme si on écoute aujourd'hui des jeunes compositeurs avant-gardistes de l'IRCAM sur des dissonances ou des textures de son qui sont extrêmement complexes, alors que nous, ça nous paraît finalement assez harmonieux, mais pour l'époque, ça faisait grincer, ou c'était très compliqué à comprendre, à décortiquer, ouais. À entendre comme musique.
Et alors, je pense que c'est pas un hasard que vous vous intéressiez à cette musique-là, qui était en effet extrêmement moderne de son temps, parce qu'il y a dans votre travail, je trouve, une confrontation permanente entre une forme de classicisme et de modernité, tout le temps. Mm-hmm. Quand est-ce que ça a été créé? Pourquoi ça a été créé? D'où ça vient? Et qu'est-ce que ça provoque aujourd'hui? C'est une chose qui vous travaille, qui est au cœur de la problématique de vos œuvres, non?
Oui, ouais, mais disons que moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'art, aux formes qui nous ont précédées, mais pas dans un sens ni scientifique, ni même historique. Moi, en tant qu'artiste, j'ai l'impression de vivre dans un flux, en fait, d'œuvres, d'idées, d'artistes qui m'ont précédé, d'artistes qui sont vivants autour de moi et qui font des choses en même temps que moi dans ce même monde. Et que parfois, je peux avoir autant de proximité ou de comprendre exactement une musique, un texte qui peut avoir 300 ou 400 ans qu'un artiste de ma génération qui est en train de faire quelque chose à ce moment-là. Et que, en fait, l'histoire des formes, de la musique, de la littérature, du cinéma est pleine de courts-circuits. En fait, il y a des choses qui ont existé à un moment donné, qui ont une signification et qui, tout d'un coup, aujourd'hui, peuvent réémerger de manière totalement différente et se connecter totalement différemment à nous, à la manière dont
on peut l'entendre. À vous et à votre regard, parce que, enfin, il y a quand même toujours un regard neuf, quelque chose de particulier dans votre façon, me semble-t-il, d'aborder, de créer. C'est ce que dit Philippe Martin, donc le producteur qui vous a proposé de réaliser d'abord ce court-métrage. On lui a posé la question, en fait, sur la particularité de votre travail, sur sa perception de vos créations. On l'écoute. Quelle est la particularité de son travail pour vous, Philippe Martin?
C'est à quel point il est dans son époque. C'est un metteur en scène, là où les formes d'expression sont souvent cloisonnées, le cinéma d'un côté, la mise en scène d'opéra de l'autre, l'art contemporain. Chez lui, ça se pose pas du tout comme ça. Il y a une inspiration peut le mener une fois vers le cinéma, une fois vers l'art contemporain, là c'est même vers la mise en scène d'opéra, mais tout ça c'est avec une espèce de naturel qui est assez neuf. Et pour moi, ça c'est le signe de quelque chose qui est en train de se passer, c'est-à-dire que j'ai l'impression que de plus en plus de metteurs en scène envisagent leur forme d'expression sous différents modes, en fait, et pas uniquement le cinéma, et peut-être pas uniquement le théâtre. Et puis il y a autre chose qui est très fascinant à observer, c'est la compréhension qu'il a de son époque. Son travail s'ancre beaucoup dans quelle sensation, quelle compréhension il a du monde dans lequel on vit. Et je trouve que c'est vraiment intéressant quand des artistes témoignent de ça. Et souvent, ce témoignage, on l'attend de gens qui vont être des sociologues, des historiens, des journalistes, et c'est souvent quand des artistes réussissent à saisir quelque chose de leur époque que la vision est la plus fine et la plus profonde. Et je pense que la mise en scène des Indes Galantes sera aussi complètement dans son époque, d'une façon tout à fait inattendue, c'est-à-dire qu'on n'imaginera pas qu'on puisse avoir une sensation si forte et si contemporaine d'un opéra si ancien. Ce que je trouve aussi très intéressant chez Clément, c'est aussi la position dans laquelle il met le spectateur. Et là aussi, je trouve que c'est une position qui est très moderne. C'est-à-dire que quand on voit le travail qu'il a fait sur Bradigno, ou avec les mêmes images, il a fait une installation qu'on pouvait voir dans un lieu consacré à l'art contemporain, et en même temps un long métrage, la position du spectateur changeait complètement. Et dans son film, dans Ni le ciel ni la terre, ce qui est intéressant, c'est à quel point la position du spectateur n'est pas celle que le spectateur vit habituellement dans un long métrage, c'est-à-dire que le spectateur est obligé de faire une partie de l'œuvre. C'est-à-dire que c'est un peu comme si jamais lui mettait en place des choses, donnait à voir des choses, mais que la compréhension et le sens de ces images ne pouvaient venir que du parcours que le spectateur va faire de son côté. C'est pas si fréquent au cinéma.
Merci beaucoup, Philippe Martin.
Merci, à vous.
Le spectateur doit faire l'œuvre aussi, Clément Cogitor. Est-ce que c'est une démarche qui est consciente chez vous ou pas forcément?
Ah bah c'est Marcel Duchamp qui dit ça, oui. Donc c'est gravé dans le marbre de l'art contemporain. Déjà merci.
Non mais pas au cinéma forcément.
Ah oui, pas forcément au cinéma. Oui, mais je pense qu'il est je pense que Marcel Duchamp a dit ça pour tout, mais je pense qu'il a bien raison. Merci à Philippe Martin pour ces quelques mots, mais pour réagir un petit peu, je suis un artiste qui navigue entre différentes formes, et il y a une génération d'artistes qui l'a fait bien avant moi. Je pense à la génération des artistes contemporains, Pierre Huyghe, Philippe Parrainot, c'est des artistes qui ont déjà décloisonné un petit peu les disciplines, et c'est aussi quelque chose qui est très ancien dans l'histoire de l'art, mais qui s'est pas fait forcément à toutes les époques. Mais je veux dire, rentrer dans un atelier d'artistes du Quattrocento à Florence, en fait, on faisait de la sculpture, de la peinture, et en fait les artistes naviguaient entre plusieurs supports. Alors ils étaient plus ou moins peintres, ou plus ou moins sculpteurs, et l'histoire les a retenus plus ou moins comme ça ou pas. Mais c'est pas, comment dire, je pense pas être quelqu'un de, enfin, je pense pas que ce soit totalement neuf ce que je fais comme
je,
ça.
Je pense que ce qu'il dit, c'est pas que c'est neuf ce que vous faites, c'est la façon dont vous le faites. Voilà, qui vous est propre, qui a une façon en effet très très particulière et très singulière. D'aborder et de décloisonner les choses. Ouais. Mais peut-être qu'il ne faut pas parler de cloisonner, de malin. Peut-être qu'il faudrait dire que moi, ce dont j'ai le sentiment quand j'observe votre travail, c'est que plus que de se dire « Ah, Clément Cogitor va faire de la peinture, Clément Cogitor va faire de la vidéo, Clément Cogitor va faire une mise en scène », j'ai l'impression que Clément Cogitor a plutôt des idées, en fait, que vous avez plutôt des idées, et que vous cherchez le médium le plus juste possible pour qu'émerge de façon juste ces idées.
Oui, complètement. Mais par exemple, souvent, c'est dans le terrain de jeu des images et des récits.
Voilà,
et
l'image est absolument... Voilà. Et la mise en scène de l'image,
ouais,
aussi.
Oui, complètement. Mmh. Ensuite, la question, par exemple, du volume et des objets m'est totalement étrangère. Aucune idée, je pense, ne m'amènera vraiment là-dedans. Enfin, en tout cas, j'ai un peu abandonné ça. Voilà. Mais en général, ça se limite à l'image et au récit et à la mise en scène.
Alors, on en vient donc du coup un petit peu au cinéma. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu juste de Bradigno, parce que c'est un film que vous avez fait récemment. C'est à la fois un documentaire et à la fois une installation qui était au BAL, donc ce centre d'art contemporain à Paris. Là, vous avez exploré encore, à mon avis, une notion qui vous est chère, qui est la notion de la frontière. Vous êtes toujours là-dessus. Ça parcourt toute votre œuvre, la notion de frontière. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parlait Bradigno ?
Bradigno, c'est un film qui parle, un projet qui parle de deux familles qui vivent en autarcie dans la taïga sibérienne. C'est un projet, on dit documentaire, parce que je vais filmer des gens qui vivent leur vraie vie dans un endroit, mais qui deviennent de fait des personnages, puisque je les filme et je raconte leur histoire. En tout cas, je filme des bribes de leur vie qui petit à petit fait une histoire. Et ces deux familles qui vivent à presque 1000 km du moindre village sont séparées par une barrière. Et en fait, elles se détestent ouvertement. Il y a une sorte de conflit ouvert entre les deux familles où les enfants n'ont pas le droit de jouer ensemble. Mmh. Ils n'enterrent pas leur mort ensemble. Deux familles qui ont un projet d'utopie, c'est-à-dire de partir loin dans la forêt, d'échapper à la misère, à la brutalité de cette région-là de la Sibérie.
Voilà, au départ, quand vous êtes allé donc voir ces familles, cet homme, ce monsieur Braguine, c'était avec beaucoup de joie en vous disant ah super, je vais aller trouver une utopie et des gens qui c'est ça. Hein.
Ouais, j'avais envie d'interroger la question de l'utopie et de dire comment est-ce qu'on construit et de l'autarcie aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit des mondes loin du monde. Voilà. Et donc je suis parti pour voir cette première famille, qui est la famille Braguine, sans savoir qu'il y en avait une deuxième qui s'était installée. Alors, j'avais entendu parler, voilà, et j'avais juste des coordonnées GPS et j'y suis allé. Donc en fait, c'est un voyage qui termine par 4 heures d'hélicoptère. Et en arrivant là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait deux familles. Il y avait une deuxième famille qui était venue, la famille Killin, qui avait voulu partager cette utopie-là parce que ça avait vraiment marché. Ils étaient vraiment heureux, il y avait une vie vraiment paisible dans la forêt là-bas. Et que ça n'avait pas marché. Et que du coup, petit à petit, le projet est devenu un projet sur l'échec de l'utopie. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une utopie quand elle n'arrive ni à se partager, ni à se protéger? Qu'est-ce que c'est qu'une utopie qui ne concerne qu'un petit nombre de personnes à cet endroit du monde? Et qu'est-ce que c'est qu'une utopie qui petit à petit devient une prison ou un enfer?
Et c'est une chose qui est aussi présente dans l'installation pour laquelle vous aviez eu le prix Marcel Duchamp, hein?
C'est un projet qui est radicalement différent d'un point de vue esthétique. Donc c'était une installation vidéo que j'avais montrée au Centre Pompidou pendant l'exposition du Prix Duchamp à la dernière rentrée, qui pour le coup est un film fait avec des images que je n'avais pas tournées,
absolument. Mais où il y a l'idée d'une fin du monde, du bout de quelque chose quand même.
Oui, il y a l'idée de quelque chose qui arrive à son terme et de personnages qui attendent la fin. Dans quelque chose d'assez claustrophobique comme ça. Tourner avec des images qui sont plutôt destinées à la publicité ou au marketing, qui sont des stock shots en fait, qui appartiennent à des banques d'images, et d'essayer de révéler d'autres choses dans ces images que ce qu'elles ont à vendre.
A priori, ce qu'elles ont à vendre, oui. Il faut vraiment que les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore découvrent. Est-ce que par exemple Braguino, comment on peut voir Braguino?
Alors Braguino, le film est édité en DVD chez Blackout, voilà. Et l'installation sera montrée bientôt au Macval, parce qu'elle rejoint la collection du musée, donc c'est la Vitry sur Seine, et je crois que c'est début 2020. Voilà. En tout cas, c'est dans l'année 2020, c'est sûr. Et donc, je suis très heureux de pouvoir remontrer cette installation et qu'elle fasse partie de la collection de ce musée que j'aime beaucoup.
Parce que le documentaire et l'installation sont vraiment deux perceptions très différentes.
Oui, il y a beaucoup de choses en commun entre les deux et il y a beaucoup de différences aussi.
Clément Cogitor, nous avons pour habitude de brosser une sorte de petit portrait chinois de nos invités. Est-ce que vous voulez bien vous prêter à l'exercice?
Eh bien, je vais essayer.
Ok. Si vous étiez un mot, Clément Cogitor.
Ouh là là.
Ça peut être ouh là là. Hein.
Voilà.
Préférez-vous avoir raison seul ou tort au sein d'une collectivité?
Tort au sein d'une collectivité.
Si vous étiez un personnage de film?
Ah, je serais le personnage de Bruno Ganz dans Les Ailes du Désir. L'ange qui décide de descendre sur Terre comme ça.
À quelle forme d'art ne pourriez-vous pas renoncer?
L'image en mouvement.
Lumière ou obscurité?
Sans obscurité, pas de lumière.
Êtes-vous un ami pour vous-même, Clément Cogitor?
Ça dépend des jours.
Quel espoir avez-vous abandonné?
Je crois celui de faire quelque chose de neuf. Je crois que plus le temps avance, plus j'ai l'impression que, particulièrement dans notre monde de flux d'images et d'informations, que toutes les images ont déjà été faites, toutes les histoires ont été racontées. Par contre, je crois que, en fait, inventer quelque chose, c'est faire des liens entre des choses. Il y a un écrivain qui a écrit « Mettez deux choses en contact qui n'ont jamais été en contact avant et le monde se met à changer. Voilà. »
Quelle est votre devise favorite?
J'en ai pas.
Duh. Le Mac de l'été sur France Inter.
C'est le moment, Clément Cogitor, de nous pencher sur l'actualité culturelle des jours à venir, des rendez-vous repérés par l'équipe du Mac de l'été.
C'est une honneur de pouvoir perpétuer l'œuvre de Monet.
Direction Giverny, le village où Claude Monet a vécu et a créé sa célèbre série des Nymphéas, pour une escapade picturale au musée des impressionnistes qui fête ses 10 ans cette saison. L'occasion d'y découvrir la nouvelle exposition temporaire de K. Xavier Roussel, Jardin privé, jardin rêvé. L'œuvre de Roussel, souvent restée dans l'ombre, n'a pas connu depuis 1968 de rétrospective en France. À travers une centaine d'œuvres et d'étoiles inédites, c'est la puissance décorative de l'artiste qui est mise en scène. Un cabinet d'estampes au cœur du parcours révèle un peintre empreint de mélancolie et très attaché au symbolisme de la fin du 19e siècle. Et en plus de l'exposition, le musée propose des visites ateliers pour les enfants et des concerts. À partir de demain et jusqu'au 1er septembre, le festival de musique de chambre créé par le violoncelliste Michel Strauss est de retour. Le thème cette année, l'Europe dans tous ses états.
Quand on arrive dans cette maison, on sent qu'elle est habitée et que Maria Cazares a vécu ici et à partir duquel on peut rêver, inventer et développer le théâtre du 21e siècle.
Ce sont les derniers jours pour profiter de la saison estivale de la maison Cazares en Charente-Limousine. Tout l'été, la maison a gardé ses portes ouvertes, offrant à ses convives un menu alliant théâtre et gastronomie. Cette ancienne ferme fortifiée du XIIe siècle installée dans le domaine de Vergne fut pendant 37 ans la maison secondaire de la comédienne Maria Cazares et accueillit son amour avec Albert Camus. Du goûter au dîner en passant par l'apéro, vous pourrez vous restaurer tout en regardant des spectacles. Accessible à tous les publics, les enfants à court à 4 heures pour entendre Pierre et le Loup et les adultes attendent le soir pour Macbeth de Shakespeare. Il y en a pour tous les goûts. Foncez à la maison Cazares. La saison d'été se termine demain.
Les films sont une vision du monde. On les voit ici à Lussas.
Dimanche dernier a commencé la 31e édition des états généraux du film documentaire de Lussas dans le sud de l'Ardèche. Une semaine de projections, de rencontres et de discussions autour des enjeux qui transpercent le cinéma documentaire. Sans compétition ni lauréat, cette manifestation souhaite seulement poser des problématiques et montrer des films. 5 salles de projection, dont une en plein air, accueillent les spectateurs. Des stages professionnels sont aussi proposés, ainsi que des séminaires. Cette année, le philosophe Edgar Morin est mis à l'honneur et la venue du documentariste russo-arménien Arthur Aristakisian va ravir tous les cinéphiles. Il présentera son film L'Adonis, un poème filmé sur les mendiants de Moldavie. En bonus, et comme tous les ans, Lussas propose aussi de découvrir sous casque la nuit de la SCAM. Cette année, la thématique Refaire le monde plonge l'auditeur dans une immersion sonore dans les archives de la radio proposée par Antoine Chao. Les états généraux du film documentaire à Lussas, c'est jusqu'à samedi.
France Inter. Le Mac de l'été. Anna Sigalevitch.
Clément Cogitor, est-ce qu'il y a des choses qui vous tentent dans ces propositions culturelles?
À Lussas, oui.
Vous êtes déjà allé, j'imagine.
Non, je suis jamais allé.
Non, c'est vrai?
Non, non. Mes films, ils se sont passés, mais j'avais pas pu les accompagner. Mais il y a très beaux films là-bas.
Est-ce que vous avez le souvenir, Clément Cogitor, de votre première grande émotion, première émoi culturel?
Il y en a eu plusieurs, mais là, comme je suis pas mal beaucoup sur la scène, là, c'est la première fois que j'ai vu un spectacle de danse. J'étais au collège et un professeur de musique avait affrété un bus pour aller voir. Moi, je viens de petite vallée des Vosges alsaciennes. Et donc, pour nous emmener voir un spectacle de danse à l'Opéra du Rhin. Et je crois qu'on devait être moins de 10 dans le bus. Je devais être un des rares garçons. Et comme les autres garçons, je voulais aller voir des filles en tutu. C'était voilà. Sinon, il n'y avait de toute façon pas grand chose à faire le soir. Donc, c'était la sortie. Je m'étais dit, c'est ça que je vais aller voir.
Pourquoi pas? Et qu'est-ce que c'était?
Et c'était Café Muller de Pina Bausch.
Ah ouais, pas mal.
Et c'était un tremblement de terre. Parce que je sortais de ma vallée. Je savais pas du tout ce que j'allais voir. J'avais aucun moyen, historique, culturel de
saisir.
Et cette musique et cette danse. Et pourtant, tout me parlait par la simplicité et la puissance du geste de ce qui était en train de se passer sur scène. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était un choc. Et je crois que c'est ça les grandes œuvres. C'est-à-dire qu'elles vont vous chercher. Elles ne vous laissent pas le choix. D'où que vous veniez. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il faut que les professeurs de musique continuent, ou d'art plastique, à traîner des adolescents, parce que ça peut changer une vie. Voilà.
Merci Clément Cogitor. Alors merci, aujourd'hui est sorti au cinéma le film Late Night de Nisha Ganatra. On écoute Emma Thompson nous en parler. Bonjour Emma Thompson, merci beaucoup d'être avec nous sur France Inter. Vous êtes en duplex avec nous depuis Londres pour nous parler de Late Night de Nisha Ganatra, qui est une comédie absolument réjouissante, mais pas seulement, hein, c'est un film qui a vraiment du fond aussi, et dans lequel vous incarnez une célèbre présentatrice de Late Show new-yorkaise, Catherine Newbery, dont la carrière décline et qui, par la rencontre un peu forcée au départ avec une jeune femme d'origine indienne, Molly, qui est embauchée presque sur un malentendu comme auteur pour vous, va bouleverser le cours de votre existence.
Qui es-tu ?
Je suis Molly, la nouvelle auteure.
Tu vas t'asseoir ?
Oui, j'y vais.
C'est la chaise de Mendelssohn.
Tu peux t'asseoir, s'il te plaît ?
Ah, d'accord. Je vais utiliser ça. Une seconde. Il y a deux, trois trucs là-dedans. Oh, très confortable, cette poubelle. Mieux qu'une chaise.
C'est la fin de notre émission.
Je suis venue te dire que cette année sera ta dernière.
Quoi ?
Ils ne pourront pas te remplacer si tout le monde t'adore.
Je sais ce que tout le monde pense de moi. J'ai peut-être eu la chance de décrocher ce boulot, mais je suis pas assez bête pour le perdre.
Qu'est-ce qui cloche avec moi, précisément ?
Tu es un peu trop blanche et un peu trop vieille.
Qu'est-ce que je peux y faire ?
J'ai un truc pour le monologue. Bon, j'ai pas besoin de prendre l'accent anglais, hein ?
Non.
Watchmen ! C'est ton émission. L'expression de qui tu es.
Comment décririez-vous Molly ?
Elle a dit que j'étais une éclatante tache de couleur sur l'étoffe grise et uniforme de notre équipe. C'était énorme.
J'ai besoin de toi, Molly. J'ai besoin de ta façon de t'imposer et de ton absence de limite.
Tu m'aimes ?
Non, je n'ai pas dit ça, Non.
Non, pas avec ces mots-là, mais tu...
Non, ni avec ces mots, ni avec d'autres.
Alors cette jeune femme, Molly, c'est Mindy Kaling, qu'on connaît notamment pour The Office, série dans laquelle elle jouait et puis qu'elle écrivait également. Et c'est elle qui a écrit le scénario de Late Night, un scénario écrit spécifiquement pour vous, Emma Thompson.
Oui. C'était bouleversant. Hein. J'étais très émue, en fait, parce que j'ai admiré Mindy pour longtemps, bien sûr, en l'office et surtout comme écrivaine. Et quand elle m'a dit « Bon, je vous admire et j'ai écrit quelque chose spécifiquement pour vous », et j'étais émue, mais à la fois aussi, j'avais peur, parce que j'ai voulu vraiment l'aimer et j'ai cru, qu'est-ce que je vais dire si c'est pas bon, si je ne l'aime pas. C'était ça mon crainte.
Votre inquiétude. Oui.
Mais quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que c'était vraiment un des scénarios les plus bons que j'ai lu pour des ans. Et j'ai voulu le faire tout de suite.
Alors le film, c'est vrai qu'il est très bien écrit, hein. L'équilibre entre comédie et émotion est particulièrement réussi. Ce subtil dosage qu'on retrouve à l'image, est-ce qu'il apparaissait déjà comme ça aussi clairement à la lecture du scénario ?
Oui, tout à fait. Nous avons découvert, bien sûr, en le jouant, des autres choses, les petites subtilités, tout ça. Mais dans l'écriture, il existait... Tout que vous avez décrit, c'était subtil, c'était fin, il y avait une finesse, mais il y avait une légèreté que j'ai appréciée plutôt que toutes les autres choses. Dans le Sénat, on trouve tous les sujets très difficiles. On trouve le racisme, on trouve le sexisme, népotisme, misogynisme. Tout ça existe dans le Sénat, mais ce n'est pas lourd. C'est très léger, c'est très comique. Mais comme vous avez dit, c'est un équilibre. C'est très équilibré. Et c'était ça que j'ai admiré plus que tout.
Votre personnage, Catherine, c'est un personnage en effet qui est très drôle, qui est très subtil, mais qui est aussi dur. Hein. Il y a une certaine suffisance envers les hommes, envers les femmes aussi. Et je trouve que c'est intéressant parce que le film parle aussi de la cruauté des femmes entre elles, des femmes de pouvoir qui se pensent féministes mais qui ont évolué dans des milieux tellement masculins et qui ont dû tellement se battre pour gagner leur place qu'elles reproduisent inconsciemment une forme de misogynie ou du moins qu'elles ont elles-mêmes du mal à accepter les autres femmes.
Oui, oui, tout à fait, vous l'avez décrit très bien. Mais elle, je crois que Catherine ne se décrit comme une féministe. Dans un sens, elle dit des choses qui sont féministes, mais elle a avalé, si vous voulez, le patriarcat dès qu'un très jeune âge.
Oui.
Et bien sûr, elle s'endurcit durant ce voyage dans le monde très masculin de comédie, surtout quand elle était jeune. Et pour moi, j'ai très bien compris ça, parce que moi, j'avais un voyage très similaire, parce que...
Oui, vous avez commencé par le stand-up.
Oui, tout à fait. Et dans ces clubs, ça, c'est un endroit très misogyne, très sexiste et très dur pour les femmes, parce que en ce sens, c'est si vulnérable, c'est absolument nécessaire s'endurcir un peu pour survivre. Et je crois que Catherine, elle a fait ça vraiment pour survivre, mais aussi pour se déterminer selon ses propres critères.
Alors, Emma Thompson, dans Late Night, se confronte aussi, il y a deux milieux sociaux, hein. Vous incarnez une bourgeoise intellectuelle new-yorkaise, Mindy Kaling, une jeune femme d'origine indienne qui vient de Pennsylvanie. Et il y a aussi quelque chose de très fort qui est deux générations. Vous lui dites à un moment une phrase qui est très forte, qui est « Ta génération est dans la catharsis, elle est narcissique ». Est-ce que c'est une phrase, bien sûr c'est votre personnage, hein, mais est-ce que c'est une phrase qui, d'une certaine manière, vous parle, que vous trouvez juste et que vous pourriez reprendre à votre compte?
Oui, c'est très intéressant ça. J'ai adoré cette phrase, catharsisme, en faisant un petit jeu sur le mot narcissisme. Je crois que dans un sens, oui, bien sûr, le média social, c'est une espèce de narcissisme électronique. Ouais, parce que il faut se présenter tout le temps comme si on était une célébrité. Mais à la fois, je trouve que la génération de, par exemple, ma fille qui a 19 ans, aussi a une énergie différente, parce qu'ils ont décidé carrément que notre génération, ça, et je veux dire ma génération, ont failli. Et quand je parle aux cette génération, les millennials, ils sont pour moi une merveille. Alors, il y a les deux choses existent à la fois. Oui, une espèce de narcissisme, mais aussi un zeitgeist très très nouveau dans les jeunes, et surtout à cause bien sûr de climate change.
Et c'est aussi grâce à cette jeunesse et à cette liberté que votre personnage évolue. Le film parle de ça, de la difficulté d'évoluer sans se compromettre, hein, Emma Thompson. Vous avez 60 ans aujourd'hui, hein, je me permets de le dire parce que vous le dites vous-même, vous semblez très tranquille avec votre âge. Et vous avez vraiment l'art de vous réinventer de film en film. Est-ce que c'est une chose où la jeunesse est très importante pour pouvoir se réinventer et avancer?
Tout à fait. Pour moi maintenant, quand je me sens un peu déprimée par la politique et par le succès des idées populistes et les mots si vides et si ratés, surtout à mon pays, je vais aux jeunes et je discute avec eux parce que ils sont moins déprimés que les plus âgés, les gens les plus âgés, par les événements récent ici à notre pays. C'est intéressant, c'est comme ils ont une imagination, bien une vision très très différente pour eux. Une espèce d'espoir qui est très important pour moi, pour éviter depression.
Merci beaucoup Emma Thompson d'avoir été avec nous sur France Inter. On était très heureux de vous accueillir dans le Mac de l'été.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Et merci beaucoup Clément Cogitor d'avoir été en direct avec nous sur France Inter. On pourra découvrir votre mise en scène des Indes Galantes de Rameau à partir du 27 septembre à l'Opéra Bastille. Cette émission a été préparée par Élodie Royer, Marion Philippe et Maëlan Loaec. Elle a été réalisée par Clément Baudet, à la programmation musicale Elsa Béranger, à la prise de son Rémi Sistiaga.